nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la santé publique, pendant laquelle nous vous parlerons de consultations médicales, de tuberculose, de santé publique dans ce qui était nos colonies et de maternité au XIXe siècle. Pour commencer cette émission, après un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, et alors que les débats se multiplient autour de la loi El Khomri sur la réforme du marché du travail, nous recevons Christian Papineau, professeur de sociologie à l'université de Poitiers, un des directeurs éditoriaux d'une nouvelle revue en ligne, Images du Travail, Travail des Images, qui se propose, dans son premier numéro, de réfléchir à la façon dont les métiers, bouchers, cinéastes, animaliers ou encore artistes, se sont mis et se mettent encore en scène. Puis, en ouverture de notre semaine consacrée à l'histoire de la santé publique, Joël Coste nous parle de son travail sur les écrits de la souffrance, la consultation médicale en France entre 1550 et 1825, paru aux éditions Champvallon. Il y analyse la façon dont les médecins les plus réputés de l'époque moderne étaient sollicités par des patients, souvent, pas toujours, lointains, pour établir un diagnostic et soigner leurs maux. Mais tout de suite, La Fabrique vous propose d'abord le 25e épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Naïs Kien, et consacré aujourd'hui aux élections italiennes de 1948.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
Per queste elezioni dobbiamo votare tutti quanti, nessuno escluso. È naturale, perché sennò poi dopo vengono i pentimenti e i rimorsi. Bravo così. Votare per chi si vuole, ma votare.
Votez pour qui vous voulez, mais votez. En avril 1948, après plus de 20 ans de fascisme, les Italiens élisent démocratiquement leurs députés pour la première fois.
Premier enjeu, c'est la fondation finalement de la République italienne, puisque les Italiens ont voté pour ne pas garder la monarchie.
Pierre Grosseur.
Donc c'est la première grande élection démocratique pour la République. Et puis le second enjeu, c'est évidemment de savoir qui est-ce qui va gagner. Et c'est le début de la bipolarisation de la vie politique italienne qu'on retrouve avec les fameux Don Camillo au niveau du village, mais qui existait aussi au niveau national, avec d'un côté la démocratie chrétienne et de l'autre côté l'alliance entre communistes et socialistes, qui d'ailleurs est une alliance un peu bizarre, puisque pratiquement partout en Europe de l'Ouest, les socialistes ont pris leur distance avec les communistes, voire sont les plus anticommunistes des partis politiques en Europe de l'Ouest.
Et comment se déroule la campagne électorale ?
La grande question, c'est est-ce que les élections vont redonner une guerre civile ? Parce qu'il y avait un certain nombre d'affrontements au niveau local. Il faut bien voir que finalement, depuis 1943, c'est-à-dire l'arrivée des troupes anglo-américaines, on est en situation de quasi-guerre civile, donc de 1943-47, avec des affrontements entre fascistes, anciens fascistes, un certain nombre de gens de droite, et puis des communistes. Des deux côtés, on a quand même tendance à accumuler un petit peu des armes. Et puis, il faut bien voir que c'est un enjeu aussi de guerre froide plus large, notamment pour les Américains, qui mettent énormément de temps à s'intéresser à la question italienne, notamment, et d'une façon générale à l'Europe de l'Ouest. Mais avec le lancement du plan Marshall, ils veulent des régimes qui soient relativement stables, et bien sûr, des forces politiques qui leur soient plutôt amies. L'autre élément de contexte, c'est le durcissement des communistes, puisqu'il y a eu la fondation du Cominform en septembre-octobre 1947, et que les communistes français comme les communistes italiens se sont fait très largement remonter les bretelles, puisqu'on leur a dit que leur stratégie finalement de coopération pour être à l'intérieur des gouvernements avait été un échec et qu'il fallait qu'ils durcissent leur ton. Et ce qui est fascinant pour ces élections de 1948, c'est que cette espèce d'optimisme des communistes italiens qui sont absolument persuadés qu'ils vont gagner.
Mais ça ne va pas se passer aussi bien que ça, finalement.
Non, ça ne va pas se passer bien pour eux, puisque les démocrates chrétiens obtiennent la majorité absolue. Donc c'est eux qui vont gouverner, qui vont rester au pouvoir pendant pratiquement toute la période de la guerre froide en Italie, soit seuls, soit en coalition. Et il y a deux questions qui sont importantes. La première, c'est évidemment quel est le rôle des États-Unis dans cette affaire. Et la deuxième question, c'est quelle est la stratégie soviétique à l'égard de l'Italie à ce moment-là. Alors pour ce qui est du côté américain, on a beaucoup insisté sur le fait que les Américains ont eu une disons, se sont ingérés très fortement dans cette affaire, ont mené de la propagande, ont déversé de l'argent. Alors, il ne faut pas exagérer la cohérence de cette stratégie. Effectivement, les syndicats américains, FLCIO, a joué un rôle pour essayer de casser le mouvement syndical qui était dominé par les communistes, comme il l'a fait en France en créant Force ouvrière. Vous avez évidemment les églises qui ont eu un rôle important. Vous avez la CIA qui a été fondée en 1947, qui commence à avoir un peu de rôle, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, elle n'a pas donné tant d'argent que cela pour les élections italiennes. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a une victoire des démocrates chrétiens, on se dit que les opérations de propagande et, j'allais dire, la guerre psychologique est un succès. Et donc, ils ont, pour aller vite, surévalué leur rôle, mais ça a des conséquences après, puisque dans d'autres élections, un peu partout, Amérique latine ou en Europe, ils ont essayé de peser sur les élections. Du côté soviétique, ce qu'on sait maintenant grâce aux archives des communistes italiens, c'est qu'en fait, Staline a plutôt joué l'apaisement du début à la fin, c'est-à-dire que c'était pas du tout une priorité pour lui. La grande priorité pour Staline, c'est l'Europe de l'Est. Et donc, Staline, très clairement, a dit « il faut pas qu'il y ait d'insurrection ».
Et pendant la campagne électorale, est-ce qu'on évoque de manière claire l'influence d'un côté de l'Union soviétique et l'influence américaine, ou tout ça se passe de manière très souterraine ?
Non, c'est vraiment une campagne nationale. Et donc la raison principale de la victoire de la démocratie chrétienne, c'est très largement des raisons locales ou des raisons nationales. Et puis il y a l'idée aussi qu'on peut utiliser les États-Unis aussi pour peser dans un certain nombre de dossiers diplomatiques qui sont importants pour les Italiens, c'est-à-dire la question de Trieste, où il y a des grosses tensions avec les Yougoslaves depuis 1945, et puis le sort des colonies italiennes. On est en train de discuter pour savoir quel va être l'avenir de la Libye, et donc un certain nombre d'Italiens attendent ça. D'ailleurs, on le voit aussi avec les Italo-Américains, qui sont très très nombreux, qui ont une attitude assez anticommuniste et assez de pointe, et c'est pas seulement pour essayer de se racheter, parce qu'ils avaient été plutôt pro-Mussolini dans les années 30 et au début de la guerre, mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'ils pensent qu'on va pouvoir peser sur les États-Unis pour que l'intérêt national italien, pour aller vite, soit mieux défendu sur la scène internationale. Et finalement, à l'arrivée, l'Italie reçoit l'argent du plan Marshall et l'Italie rentre dans l'OTAN dès 1949. Mais avec une petite particularité, c'est qu'étant donné les fissures internes, la démocratie chrétienne va essayer toujours d'être assez modérée sur le front de la guerre froide. Un historien italien, donc Mario Del Perro, a utilisé le terme de contenir le containment, hein, endiguer l'endiguement, c'est-à-dire essayer de limiter les conséquences intérieures, finalement, du schisme international. Et donc, sur beaucoup de dossiers, l'Italie va faire plutôt profil bas pour pas augmenter les tensions à l'intérieur du pays.
C'était donc le 25e épisode de notre série Feuilleton, donc la fabrique de la guerre froide, préparée aujourd'hui par Anaïs Quien et Séverine Cassard. Et bien entendu, comme tous les autres épisodes de ce feuilleton, vous pouvez les télécharger séparément de l'émission du jour pour les garder en série, pour pouvoir les réécouter par-devers vous. Il est 9h15 sur France Culture et nous sommes en duplex avec Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christian Papineau, et remercions nos collègues, en particulier Nicolas Puissant qui est le technicien qui vous reçoit dans les studios de France Bleu Poitou. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Poitiers, et l'université de Poitiers est à l'origine, alors que l'on débat beaucoup des questions du travail aujourd'hui, à partir de la loi El Khomri, d'une nouvelle revue qui s'intéressera au travail avec un angle particulier, la façon en particulier dont les métiers se mettent en scène, dont on représente le travail plus généralement. Ça s'appelle Images du travail, Travail des images, et c'est une revue qui a la particularité, comme beaucoup de nouvelles revues aujourd'hui, d'être en ligne et de ne pas être éditée en papier. On peut donc la trouver sur ce site Images du travail, Travail des images. Alors, vous participez à une direction éditoriale collégiale, donc vous allez parler au nom de vos collègues, mais vous êtes nombreux, vous êtes cinq, Henri Eckert, Laurence Elena, Jean-Paul Géin, Armel Giglio-Jacquemot et vous-même, à coordonner donc cette nouvelle revue. C'est quoi l'idée de cette nouvelle revue et pourquoi l'avoir lancée sur le net, Christian Papineau ?
Alors, l'idée, il y a une genèse en fait qui est un peu plurielle. D'abord, on est tous membres du GRESCO, qui est le laboratoire de sociologie de l'Université de Poitiers, et on s'intéresse tous aux questions d'image et de travail depuis un certain temps.
Et il faut dire qu'il y a à Poitiers un festival qui s'appelle Filmer le travail, qui est coordonné par certains d'entre vous, et qui est un festival qui en est à sa 10e édition maintenant, quelque chose comme ça, 8e, 10e ?
Alors, c'était la 7e édition cette année, au mois de février. Tous les ans, il y a une semaine de films, de documentaires qui sont présentés sur le travail, de débats aussi qui sont organisés sur le travail, donc par l'association Filmer le Travail, qui est à l'origine, enfin l'Université de Poitiers est aussi à l'origine en fait de la création de ce festival. Donc, par rapport à ce festival qui s'est lancé, l'idée était de développer aussi une réflexion un peu plus scientifique. Et donc, il y a eu un premier colloque qui s'est organisé en 2009 autour de réunissant un certain nombre de chercheurs qui travaillent, qui s'intéressent aux questions d'image du travail, qui a donné lieu à un ouvrage qui s'intitule également Image du travail, travail des images. Et puis, dans la foulée, donc un deuxième colloque en 2013. Et ensuite, par rapport à cette montée en puissance de la réflexion, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure d'une revue en fait numérique en ligne. Et donc, c'est comme ça qu'est né d'abord le carnet sur le portail hypothèse.org. Et puis donc cette nouvelle revue qui est née au tout début février avec ce premier numéro consacré aux groupes professionnels et comment ils se mettent en image.
Alors effectivement, voilà, c'est une revue pluridisciplinaire. Il y a quelques historiens dans le comité de rédaction comme David Hamelin ou Nicolas Hatzfeld, une géographe comme Marie Chenet, beaucoup de sociologues puisque vous êtes sociologue de formation vous-même, mais également des anthropologues qui réfléchissent à cette question. Et le premier donc numéro, vous venez de le dire, est consacré à la façon dont les métiers se mettent en scène, c'est-à-dire à une représentation des métiers par eux-mêmes, pourrait-on dire, Christian Papineau.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, on avait organisé une journée d'études l'an passé sur cette question des groupes professionnels et comment ils pouvaient mobiliser, instrumentaliser aussi les images dans leur stratégie d'autonomisation, de définition de territoire professionnel. Et voilà, ça a connu un certain succès. On a réitéré en fait l'opération en septembre dernier à Lausanne. Et donc, on a ce premier numéro qui tourne autour de comment les groupes professionnels ont utilisé stratégiquement les images pour définir et même créer leur territoire professionnel. Et puis, on aura un deuxième numéro, sans doute le numéro 5, qui regardera plutôt la question de comment les médias, en fait, voient les groupes professionnels, même si cette question est évidemment toujours une question un peu dialectique, quoi.
Ouais, alors, nous sommes en ce lundi avec Anaïs Quien, de la Fabrique de l'Histoire. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Et vous voulez poser une question à Christian Papineau.
Oui, justement, Christian Papineau, j'avais envie de revenir avec vous sur cette notion même de métier. Aujourd'hui, on est dans un processus managérial qui remet en question cette question du métier, cette identité professionnelle. On parle aujourd'hui davantage d'agrégats de compétences. Est-ce que finalement cette étude que vous faites sur la représentation, sur l'identité professionnelle, va être impactée évidemment par ce processus, par ce changement qui est en cours et qui détruit finalement l'identité professionnelle aujourd'hui?
Alors les changements qui ont touché à la définition et aux frontières des groupes professionnels sont pas tout à fait récents, hein, puisque dans le numéro 1, on a un article de Sophie Brouquet qui montre que en fait dès le Moyen-Âge, enfin il y a déjà des choses qui sont en transformation bon, c'est sûr qu'aujourd'hui les transformations de l'organisation du travail, la forte pression autour de la question de l'emploi, voilà, on est dans une société de plein chômage comme dirait Margaret Marouani. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, on est effectivement dans des tensions qui jouent sur le périmètre et puis l'identité des groupes professionnels. Mais néanmoins, il y a des choses qui perdurent en termes de définition de frontières, de corporatisme. Même, on l'a vu l'année dernière avec les manifestations des professions libérales qui défendaient leur identité professionnelle de façon assez efficace d'ailleurs.
Ou plus récemment la question donc, des taxis parisiens ou autres donc attaqués par le nouveau métier de véhicule de transport, donc les VTC. Alors si on revient à cette façon dont les métiers se mettent en scène, vous avez cité l'article de Sophie Brouquet sur la prise de conscience d'une dignité des métiers d'art qui fait que à un moment donné du Moyen-Âge, elle est spécialiste de cette question, on commence à passer du statut d'artisan à un statut d'artiste et on se met donc en scène un peu comme on commence à peindre Saint-Luc peignant la Vierge, et on se dit que tout compte fait, on est un peu le descendant soi-même de Saint-Luc, et donc on est un auteur, on a une particularité, et on a une différence par rapport à ses collègues. Et cela, c'est effectivement intéressant que de plonger dans cette longue histoire de la représentation des artistes par eux-mêmes, pourrait-on dire, et pas simplement les autoportraits de la fin du 19e siècle, très connus, que ce soit de Modigliani, de Picasso, ou d'autres, en l'occurrence Christian Papineau.
Oui, alors là, cet article-là est particulièrement intéressant puisqu'il montre bien en fait le processus en fait qui est à l'œuvre à la Renaissance autour de la revendication d'une autonomie par rapport à l'identité d'artisan que vont revendiquer petit à petit les artistes. Et il est doublement intéressant parce que on voit bien comment ils vont utiliser leur propre production pour s'affranchir en fait de ces arts mécaniques. Gagner en fait en légitimité, en honorabilité. Et puis il est aussi intéressant parce qu'on voit bien comment il y a aussi la question de l'image comme construction sociale, c'est-à-dire qu'ils vont revendiquer le fait qu'ils ne sont pas que des copistes de la réalité. Mmh. Et ils vont revendiquer effectivement une production, une identité par rapport par rapport à aux productions d'images qu'ils vont faire. Et on va retrouver ce débat par rapport à l'histoire de la photographie, par exemple, quand elle naît au milieu du 19e siècle. Il y a aussi cette idée que la photographie est une copie de la réalité. Et petit à petit, il va y avoir un travail d'autonomisation aussi des photographes pour montrer qu'ils ne sont pas que des copistes et qu'il y a bien une part de production derrière l'usage de cet instrument qu'est la photographie. Alors, il y a une très belle page de Baudelaire là-dessus, par exemple.
Oui, oui, il y a aussi un très bel article, il faut le citer, de Sylvain Leteux, je pense qu'on prononce comme cela, ou Leteux, je ne sais, qui travaille sur l'image des bouchers depuis le XIIIe siècle. Et c'est un article très intéressant, puisque vous avez cité, à propos des artistes s'extrayant, pourrait-on dire, des arts mécaniques à la fin du Moyen-Âge, ce terme d'honorabilité, et c'est dans le sous-titre de cet article, la recherche de l'honorabilité entre fierté communautaire et occultation du sang pour les bouchers. C'est un travail très intéressant qui nous montre comment justement cette question du sang, et on avait déjà eu des travaux de sociologues et d'anthropologues sur la question des abattoirs, en particulier sur ce thème-là, est occultée, mis de côté, et que comment progressivement le boucher, en particulier depuis la fin du 19e siècle, se met en scène comme une sorte de bourgeois. C'est le boucher autonome, le petit boutiquier qui va progressivement arborer son tablier immaculé et puis un peu plus tard sa cravate, s'habiller comme un bourgeois pour montrer qu'il est l'héritier justement d'une longue tradition, mais aussi qu'il appartient à un artisanat extrêmement valorisé, pourrait-on dire, dans la société française du 19e et du début du 20e, Christian Papineau.
Oui, donc ce travail de Sylvain Leteux est intéressant aussi, puisqu'il montre bien comment, au milieu du 19e siècle, il y a cette volonté de s'affranchir en fait des bouchers abatteurs, en fait, par rapport aux bouchers qui vont se spécialiser dans la vente de détail de viande. Et donc ici, il y a vraiment une stratégie de mise en scène qui va passer par le fait de montrer en fait des instruments de la profession, mais aussi ce tablier blanc, ce tablier immaculé qui prend de la distance effectivement avec les représentations qu'on peut avoir du boucher qui fait jaillir le sang et qui abat et qui tue l'animal, quoi.
Anaïs Quien. Anaïs Quien.
Oui, Christian Papineau, on peut se demander aussi, on a un effet de déploiement de plus en plus grand des agents du service public dans l'espace public depuis l'époque moderne. Comment cela influe peut-être sur la représentation des autres professions ? Parce que on invente finalement de nouveaux corps de métier, de nouvelles manières d'être dans l'espace public, de nouveaux costumes aussi et de nouvelles représentations du travail à ce moment-là.
Les représentations, elles évoluent tout le temps, en fait. Ce qui est un peu le cœur, finalement, de ce dossier sur les groupes professionnels, c'est de montrer comment, en fait, ils vont mobiliser différents atouts, et en particulier des stratégies de mise en image pour agir, pour se définir leur territoire et jouer dans des champs qui sont des champs concurrentiels.
Des champs concurrentiels.
Des bouchers.
Oui.
Est particulièrement intéressant à cet égard.
Mais par rapport, effectivement, aux uniformes des serviteurs, pourrait-on dire, de l'État qu'évoquait Anaïs Quien, que ce soit les policiers ou d'autres personnalités comme celle-ci, qui sont présents dans l'espace public, effectivement, il y a aussi une façon dont les métiers, disons, du privé, vont aussi se représenter, se mettre en scène, exister dans l'espace public parallèlement. Et ce ne sont pas des uniformes, puisque effectivement ils sont pas toujours les mêmes, mais néanmoins on se distingue, on veut montrer quel est son métier sur la façon dont on se représente et dont on se montre dans l'espace public, en l'occurrence Christian Papineau.
Il y a des logiques qui sont des logiques d'imitation, qui peuvent être par rapport à des métiers considérés comme honorables ou très légitimes. Et on voit bien comment l'article de Charles Gadea, par exemple, montre bien qu'il y a ces logiques, en fait, à la fois de distinction et en même temps d'imitation, dès lors qu'on a affaire à des métiers qui sont des métiers fortement légitimes.
Alors, il y a aussi dans cette revue en ligne qui s'appelle donc, je le rappelle, Images du travail et travail des images, d'autres parties que le dossier, en particulier des varias, comme dans beaucoup de revues, mais aussi un grand entretien. Et ce grand entretien, vous l'avez réalisé, Jean-Paul Géhin et Maxence Lamoureux, avec Pierre Carle, le cinéaste, qui met en scène lui aussi du travail. Et on sait le débat depuis la semaine dernière autour du film de quelqu'un qui est relativement proche, je pense, Pierre Carle, à savoir François Ruffin, merci patron, qui met en scène effectivement les difficultés des ouvriers du Nord après la prise en main de certains des groupes dans lesquels il travaillait par Bernard Arnault. Pierre Carle, c'était un choix aussi de montrer un certain militantisme autour cinématographique, autour du travail.
L'espace de la revue est un espace scientifique, mais on l'a aussi voulu d'emblée en fait l'ouvrir à des professionnels de l'image. Et donc il y a des rubriques en fait de la revue qui sont un peu prévues pour ça. Il y a la rubrique Un œil, une image, la rubrique Image en chantier, et il y a aussi ces grands entretiens qu'on a prévus pour chaque numéro. Donc deux numéros par an, hein, pour la revue. Et donc c'est pas forcément la question du militantisme qui nous anime que d'interroger en fait des professionnels de l'image qui ont un regard singulier sur le travail, effectivement, et celui de et Pierre Carle est effectivement fait partie de ces professionnels de l'image. Vous soulignez le très beau film de Ruffin sur LVM, sur Bernard Arnault. On a eu l'occasion de le visionner par rapport au festival. Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans le contexte actuel de pouvoir aller voir ce film-là.
Et vous parliez de cette rubrique Un œil, une image, on va terminer là-dessus avec vous, Christian Papineau. Un œil, une image, c'est un professionnel de l'image qui reprend une image et qui la commente très brièvement pour pouvoir donner les à côté, pourrait-on dire, de cette image et ce qu'elle raconte en dehors du cadre, pourrait-on dire, Christian Papineau.
Oui, c'est ça. Ça peut être une image qui a été un événement un peu déclencheur par rapport à une démarche de compréhension du monde du travail, une image qui, a priori, paraît relativement banale et qui est très lourde de sens par rapport à la réalité qui est montrée, comme une fermeture d'usine, par exemple, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des chercheurs qui utilisent l'image, puisque notre vocation, c'est pas simplement de réfléchir sur une production iconographique sur le travail, mais aussi d'offrir un espace pour que les chercheurs qui utilisent l'image dans leurs travaux de recherche puissent exprimer leur point de vue là-dessus, et puis en introduire un débat, parce que ce que je voulais dire peut-être par rapport à la genèse de cette revue, c'est que il y a une certaine timidité dans les sciences sociales françaises par rapport à la réflexion sur l'image et en particulier sur l'usage de l'image comme outil de recherche. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques initiatives éparses sur ces 30-40 dernières années. Moi, j'ai fait partie de l'aventure d'une revue qui s'appelait Xoana, qui a duré à peu près 10 ans. Qui s'est arrêtée par faute de moyens. Elle était éditée par Jean-Michel Place à l'époque. Et il y a eu plusieurs initiatives comme ça, mais qui n'ont pas véritablement on n'est pas sur une cumulativité de tout ça. Et donc l'idée, ça serait aussi, de par le biais de cette revue numérique, de pouvoir offrir une plateforme de cumulativité des savoirs aussi sur ces questions d'usage de l'image dans la démarche de recherche en sciences sociales de façon générale.
Oui, et je vous propose peut-être pour une future rubrique à un œil d'image, cette photographie qu'on a vue la semaine dernière de Madame El Khomri et de Monsieur Valls coiffés d'un casque de chantier avec des lunettes anti-projection parce qu'il fallait vendre d'une certaine façon la loi sur le travail, et c'est une photo intéressante de la façon dont la communication s'empare justement des métiers et en particulier des représentations de ces métiers. Merci à vous, Christian Papineau. Je rappelle que cette
Merci
revue
bien, oui.
s'appelle l'équipe, donc s'appelle, c'est une revue d'équipe, s'appelle Images du travail, travail des images, qu'on peut le trouver en allant sur la page de la Fabrique de l'Histoire, et il y a le lien, bien évidemment, avec votre revue en ligne, qui est donc gratuite et que l'on peut consulter. Merci également à Nicolas Puissant, qui vous a reçu dans les studios de Radio France à Poitiers. Extrait de Gesualdo Languisce, donc par le Concerto Italiano, pour nous introduire au deuxième sujet de ce jour. Bonjour Joël Coste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer ce livre paru chez Champvallon, Les écrits de la souffrance, la consultation médicale en France. On avait voulu vous interroger justement en ouverture de cette semaine consacrée à la santé publique pour nous arrêter sur ce moment particulier qui est l'époque moderne sur laquelle vous travaillez. Alors rappelons que vous êtes par ailleurs vous-même médecin rhumatologue, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Paris-Descartes, et également directeur d'études d'histoire de la médecine à l'EPHE, l'école pratique des hautes études. Et vous menez à la fois votre travail de médecin et votre travail de chercheur en sciences humaines et en histoire. Alors, la particularité de ce livre, c'est de nous plonger dans un fonds d'archives, comme souvent quand un historien trouve un fonds d'archives particulier, un fonds d'archives assez méconnu, nous expliquez-vous, Joël Coste, qu'on peut trouver par exemple à la Bibliothèque interuniversitaire de santé, dont on parlera la semaine prochaine dans la Fabrique de l'Histoire. C'est quoi ces archives qui vous ont servi pour les écrits de la souffrance, la consultation médicale en France entre 1550 et 1825 ?
Alors, il s'agit de textes qui étaient rédigés par les médecins, des médecins, disons, consultés en deuxième niveau, quand il y avait des difficultés entre le médecin ordinaire et puis le patient ou la famille. Et donc, ces textes ont été conservés de manière généralement hasardeuse ou rare.
Pas systématiquement, en
tout cas. En tout cas, ils ont été conservés et recueillis pour les grands maîtres qui, comme Fernel ou comme Bayou, comme Dumas ou comme Chirac, qui, donc, leurs étudiants ont colligé ces consultations et les ont fait éditer, les ont fait imprimer par les libraires.
Comme des cas d'études.
Comme des cas, parce que les médecins, les jeunes médecins avaient besoin de maîtriser cet exercice également, donc il fallait qu'ils aient des modèles.
C'est un exercice littéraire dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a une codification aussi de l'exercice. Alors, on n'écrit pas n'importe comment ce type de rapport.
Non, c'est un acte bien codifié, donc qui s'insère dans une stratégie ou dans une prise en charge du patient qui est à deux niveaux. Hein, le premier niveau du médecin ordinaire ou du chirurgien, et quand ce niveau est insuffisant, le patient, l'entourage, fait appel, demande à des médecins de donner un avis complémentaire. Donc ça peut être de deux manières, soit on assemble les médecins au chevet du patient.
Ça ressemble à ce qu'on s'imagine à travers le travail de Molière, par exemple, les médecins qui sont au pied du au chevet du patient.
C'est une des deux grandes modalités de deuxième avis. Alors, une modalité un petit peu compliquée. Les médecins avaient souvent tendance à être pas d'accord les uns avec les autres, donc ils pouvaient se chamailler. Donc, on a quelques livres qui expliquent comment ils doivent se comporter. C'est assez intéressant. Et puis, l'autre modalité, c'est la consultation écrite. Qui est demandé à une sommité régionale ou nationale. On va écrire, le médecin responsable, le médecin ordinaire ou le chirurgien va écrire ce qu'on appelle un mémoire, dans lequel il va raconter l'histoire du sujet, les symptômes, les traitements qu'il a mis en œuvre de manière... il essaye d'expliquer qu'il a fait tout son travail, bien fait son travail, et que la maladie a résisté, et donc demande un conseil. Et donc ce médecin référent, aujourd'hui on utiliserait ce terme-là, va utiliser donc ses connaissances pour donner un avis argumenté sur un traitement ou sur un diagnostic, sur un traitement.
Mais à distance, toujours à distance.
Alors à distance ou non, on a dans un tiers des cas de ces textes, on a l'assurance que le patient était présent, parce qu'on dit, le médecin va dire, il m'a répondu comme ça, il a dit ceci, il a dit cela. Donc c'est pas uniquement de la consultation épistolaire. C'est intéressant de voir que le texte est commun. Aux deux activités, aux deux pratiques. Ça peut être une pratique face aux patients et une pratique à distance. Finalement, la médecine de cette époque pouvait se faire de deux manières différentes, sans trop de différence.
Un exemple, un certain Ponce écrit à un médecin célèbre, docteur en médecine, monsieur Haguenau, le docteur Haguenau: messieurs, j'ose me flatter que vous voudrez bien avoir la bonté de faire une prompte expédition du judicieux délibéré que nous attendons de votre part. Le malade dont il s'agit est en état de faire toutes les dépenses nécessaires pour sa guérison. Il a déjà passé par les mains de tous les médecins et chirurgiens de Lyon et de Trévoux sans pouvoir guérir. Il s'est adressé à moi depuis 3 jours. Je suis son dernier ressort. Avant de lui faire aucun remède, j'ai trouvé à propos d'avoir recours à vos lumières pour tâcher de le guérir. Il est vrai que, soit dit entre nous, je crois qu'il y a beaucoup de chagrin dans sa maladie et qu'il ne vit pas bien avec son épouse. Vous aurez la bonté de me marquer le montant de vos honoraires que j'aurai l'honneur de vous envoyer par la poste comme étant la voie la plus sûre. C'est monsieur Isnard, médecin à Grasse, qui m'a procuré par relation l'honneur de votre connaissance. Je suis nouvellement établi dans ce pays. J'aurai l'occasion dans la suite de vous témoigner avec quel sentiment respectueux et sincère j'ai l'honneur d'être, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. C'est pas mal.
C'est une des...
Quand on trouve ça dans un fonds d'archives, on
absolument.
Est content, Joël Coste.
On a trouvé cette lettre au milieu d'un fouillis de papiers dans une boîte conservée à la Bibliothèque interuniversitaire de santé, qui rassemble des papiers médicaux d'Haguenau, donc qui est une grande personnalité de Montpellier, qui a d'ailleurs fait construire un hôtel magnifique... qu'on peut visiter aujourd'hui. Haguenau était donc un grand professeur montpelliérain. Donc on voit dans ce texte les approches, la stratégie, le médecin qui veut pas prendre un malade difficile, à l'évidence, sans prendre des précautions très nombreuses.
Par peur pour sa réputation s'il n'arrive pas à résoudre ce cas.
On sent qu'il est impressionné par le fait que le patient ait déjà passé par tout un tas de mains avec un échec, et puis que le voilà, le malade, il le dit entre les lignes, c'est pas un malade commode, il a des difficultés peut-être avec sa femme, il a du chagrin, de la mélancolie, de la voilà.
D'ailleurs, c'est assez étonnant dans tous ces cas que vous nous offrez à lire, Joël Coste, l'importance et la récurrence des malaises existentiels dans ces descriptions de pathologie et dans ces demandes de conseils, dans ces demandes d'aide interprofessionnelle.
Alors, vous avez beaucoup de maladies chroniques qui sont à l'origine de ces consultations. Forcément, on consultait pas à distance on mettait pas en œuvre toute cette stratégie pour des maladies aiguës, des fièvres, des complications traumatiques, par exemple. Ça, c'était hors de question.
C'est-à-dire que si on venait de se faire passer dessus par une charrette, on avait peu de temps, peu de possibilités de recevoir le conseil d'un médecin qui était situé à Montpellier ou à Paris, d'attendre le retour de la poste pour pouvoir se faire guérir.
Absolument, ça mettait 3-4 jours au mieux, hein, dans le cas où la poste allait vite, les routes n'étaient pas trop impraticables, etc. Donc c'était les maladies chroniques, et donc comme aujourd'hui d'ailleurs, les maladies chroniques sont assorties d'un grand nombre de problèmes psychologiques, de vécu, de difficultés de continuer à vivre, et donc de réactions. Aujourd'hui on appelle ça des réactions dépressives ou anxieuses, et donc on a ces éléments qui sont très présents.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on se dit, comment j'écris à un grand spécialiste mon mémoire, puisqu'on doit écrire son mémoire sur sa maladie, enfin, soi-même, ou c'est son médecin traitant le plus proche qui vous écrit, qui écrit à sa place. Et évidemment, le grand spécialiste n'a pas trop le temps de regarder dans une lettre pas très bien construite l'affaire, et il ne voudrait pas passer trop de temps à établir son diagnostic. Donc, il demande, comme le fameux docteur Tissot à la fin du XVIIIe siècle, si les personnes de tout ordre voulussent bien dans leurs lettres observer un plan à peu près semblable, elles se procureraient souvent par là des réponses plus satisfaisantes et s'épargneraient la peine d'écrire de nouvelles lettres pour servir donc d'éclaircissement aux premières. Effectivement, il vaut mieux bien écrire son mémoire, bien expliquer qui l'on est, de quelle famille on vient, si on a des pathologies dans la famille, quand est-ce que le mal vous a pris, comment il s'est déclenché, quels sont les symptômes, etc., pour avoir la réponse la plus précise possible du médecin en second recours qui est de l'autre côté de la France et qui va vous répondre, Joël Coste.
Alors, le texte que vous citez est très intéressant dans ce qu'il indique que les patients eux-mêmes, à une période qu'on peut à peu près fixer au début du XVIIIe siècle, prennent des initiatives d'écrire eux-mêmes leurs troubles, l'histoire de leur maladie, maltraitée ou pas bien, en tout cas de manière insuffisamment traitée.
Et là, on entend bien d'ailleurs que tout le monde n'a pas les moyens d'écrire et de rémunérer un médecin lorsqu'il est atteint de ces maladies chroniques dont on parlait tout à l'heure.
Alors, il y a deux choses. Il faut bien sûr écrire, savoir formuler les problèmes, les questions. Il faut aussi pouvoir payer. Là, c'est l'autre dimension de votre question. Cette activité de consultation était, comme je disais, un acte bien codifié, tarifé. On a retrouvé assez miraculeusement à Nîmes un tarif des médecins. Tous les actes des médecins avaient un certain barème, un tarif. Et donc, c'était 6 livres ou 9 livres. Selon,
ce qui induit une clientèle privilégiée, malgré tout.
6 livres, c'est 18 jours de travail.
Et pour certains, les plus célèbres, ça peut aller jusqu'à 24 livres.
Jusqu'à 24 livres. On a, par exemple, notamment les Montpelliérains qui consultaient en duo. Donc, c'était 12 livres par médecin. Donc, 24 livres. Vous voyez la sélection sociale que cela implique.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous ne vous attachez pas simplement à la question des pathologies qui sont décrites dans ces textes, les mémoires et les réponses des médecins à ces mémoires, mais également à leur style. Et vous faites un travail littéraire autour, Joël Coste, de ces écrits.
écrits. Vous dites que certains des médecins ont un style baroque ou rococo, c'est le cas d'Antoine Dédier. D'autres ont un style pré-romantique, c'est le cas de Ramel. Et que, d'une certaine façon, ils ne se contentent pas dans ces écrits. Les médecins, quand ils répondent à ces mémoires envoyées par des patients ou par des premiers chirurgiens qui sont proches de ces patients, ils ne se contentent pas de donner la recette qui permettra aux malades d'aller mieux, mais ils font assaut d'un certain style littéraire en particulier.
Alors, ces textes sont des pièces de rhétorique. Il s'agit de convaincre le médecin ordinaire de suivre son conseil, de convaincre aussi le malade de suivre les conseils qui sont donnés, ou éventuellement, quand le consultant confirme une prise en charge du médecin ordinaire, faire que le malade suive les
prescriptions.
Donc il y a une rhétorique qui est mise en œuvre pour convaincre que c'est bien ça qu'il faut faire, que le diagnostic c'est bien cela, que le traitement est à faire, et donc vous avez une écriture complètement destinée à convaincre, et dans cette écriture, le style compte. Le style, vous avez des médecins qui sont vraiment...
Des rhétoriciens.
Qui travaillent les arguments, mais également la forme de l'argument.
Anaïs Kien.
Il faut convaincre Joël Cos, parce que la médecine n'a pas encore gagné suffisamment de terrain pour être acceptée, pour que son autorité soit acceptée d'emblée par le patient qui pourtant est là pour en bénéficier.
Disons qu'elle a, non, elle apporte des réponses à certains problèmes, mais des réponses qui sont incomplètes, imparfaites. Les médecins en sont assez convaincus, d'ailleurs, notamment au XVIIIe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, où il y a une sorte de scepticisme qui commence à gagner le monde médical.
Scepticisme sur les solutions pratiquées depuis...
Sur les solutions thérapeutiques, ouais. Pratiquées depuis,
la saignée,
certaines, depuis longtemps. Ouais. C'est l'époque où si les médecins redécouvrent l'hygiène, le mode de, enfin, les régimes de vie, on insiste à nouveau sur l'alimentation, sur l'exercice physique. Vous avez des paragraphes entiers où les médecins essayent de convaincre les patients d'aller faire du cheval, d'aller marcher, d'aller à la campagne. C'est des choses assez étonnantes et qui ont un écho aujourd'hui quand on lit que voilà, votre maladie est liée à la sédentarité. Puisque vous mangez, vous ne bougez pas assez, et on a des choses très contemporaines.
Oui, c'est très intéressant, parce que ce que vous nous montrez aussi dans les écrits de la souffrance, Joël Coste, c'est qu'en fait, ces trois siècles sur lesquels vous avez travaillé à partir de ce fonds de 2000 et quelques patients qui consultent à distance ou pas des médecins en seconde référence, eh bien, ces trois siècles sont des siècles très différents entre le 16e et le début du 19e siècle. On n'a pas encore la médecine pasteurienne, bien évidemment, mais vous nous montrez une période qui n'est pas monolithique, et c'est ça qui est très intéressant. Vous nous dites que les thérapeutiques ont évolué, que par exemple la purgation ou la saignée sont moins systématiquement pratiquées à la fin de la période qu'au début, qu'elles ont été remplacées vers 1770 par des applications cutanées, par les frictions, les cautères ou des choses comme ça, et qu'au bout du compte, on a quand même non pas une fixité de cette période, mais quelque chose qui évolue sur les trois siècles en question.
Alors, c'est vrai que l'historiographie qui véhicule des clichés sur l'image de cette médecine de Molière et qui...
Les médecins en cohorte, c'est vraiment l'image qu'on a gardée d'ailleurs.
C'est une image d'Épinal. Il faut la considérer comme telle. Elle a été d'ailleurs ridiculisée parce que elle faisait rire déjà à cette époque, à l'époque de Molière. Elle était déjà pas réelle.
Il y a une communauté qui doute, qui ne cesse de se rassembler pour se poser des questions et qui n'arrive jamais à trouver de solution.
C'est l'image qu'on en a, en tous les cas.
De la médecine dans
Oui. Alors, donc, la médecine a évolué, entre le 16e et où on reprend, on va dire, les grandes théories galéniques. Et puis ensuite, au 17e, on a le mécanisme qui arrive. Vous avez des représentations du corps qui, comme une machine. Ensuite, vous avez le vitalisme qui prend, en France en tout cas, une importance très, très considérable et qui fait, à ce moment, faire que les médecins essayent de stimuler la force vitale, donc par des traitements souvent extrêmement agressifs. Finalement, quand on lit ces consultations, on a une vision très 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 directe des traitements qui sont appliqués. On a à la fin du 18e siècle des traitements extrêmement agressifs, extrêmement intrusifs. Vous avez à nouveau des saignées, des purgations qui sont très très violentes à certains moments, et puis ces traitements cutanés, ces frictions, ces bains froids, ces ventouses, ces cautères, ces moxas. Vous avez mal au pied droit, donc on va vous mettre un moxa sur le bras gauche.
C'est quoi un moxa?
C'est le terme abrégé de moxibuction, où on vous brûle, vous faites une plaie par brûlure, donc qui est censée dériver les humeurs vers l'endroit de la plaie et donc soulager, disons, que la partie douloureuse. Donc,
c'est sûr que si on se brûle, ça nous fait effectivement beaucoup de bien à l'endroit où on n'est pas brûlé. En l'occurrence, c'est surtout ça.
Ce qu'on découvre peut-être un peu moins, c'est le rapport des médecins au corps de leurs patients. Il y a très peu de descriptions finalement de ce que c'est que pour un professionnel de la santé, pour un médecin, de manipuler le corps de son patient et de peut-être l'évolution de ces gestes médicaux sur les patients à travers ces siècles du 16e au 18e.
Alors le rapport il est beaucoup par la parole et par ils écoutent ce que disent les patients. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'échange, les symptômes, les manifestations. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand il faut, ils examinent les patients. Vous avez, ce que j'ai consacré quelques pages à ce sujet, consultations où on explique l'examen physique qui a été fait, qui a retrouvé au niveau du ventre, par exemple, un signe du flot, qui a retrouvé un foie qui est trop gros. On mesure en travers de doigts la taille du foie, par exemple. Donc des choses qui sont très très courantes dans l'examen
clinique,
même contemporain encore. On a même aussi une très belle épreuve au sucre. Se demande si un patient a une fistule des glandes lacrymales, et donc pour cela on va insuffler du sucre dans l'œil. Normalement vous avez une communication entre le l'œil et puis le nez, donc, le canal lacrymal. Si ce canal est obturé, la communication se fait plus. En soufflant du sucre dans l'œil, on demande au patient de sentir s'il a bien du...
Mais ces gestes semblent arriver toujours en deuxième instance. Finalement, la médecine est une discipline très orale, c'est une discipline du verbe avant tout.
Et elle est d'abord au niveau du verbe, mais le moment venu, sur les problèmes qui le justifient, vous avez possibilité d'examiner les patients.
Merci Joël Coste. Je rappelle que votre livre s'appelle Les écrits de la souffrance, la consultation médicale en France, 1550-1825. Il est paru chez Champvallon et vous nous dites à la fin, effectivement, que la question aussi pour les médecins, c'est de savoir ce qu'il faut dire quand on pense que le diagnostic est négatif. Et vous dites, la plupart du temps, beaucoup de ces médecins chérissent et tentent d'entretenir l'espoir des patients, ce qui est une belle façon de passer au dernier sujet de cette émission. Bonjour Sarah Masson.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez réalisé avec Anne Fleury le documentaire qu'on entendra demain dans notre semaine sur la santé publique. Et ça se passe à Clairvivre. Quel beau nom. C'était quoi Clairvivre?
Alors Clairvivre, déjà aujourd'hui, c'est une petite ville au milieu de la campagne, sur la commune de Salagnac, au nord-est de la Dordogne. Elle abrite notamment un ESAT, c'est-à-dire un centre d'aide par le travail, et un centre de rééducation professionnelle. Mais à l'époque, Clairvivre, dans les années 30, c'est aussi une cité sanitaire, bâtie donc dans les années 30, en 1933, pour les tuberculeux et les gazés de la Grande Guerre. L'architecture de la cité est d'ailleurs assez originale, des constructions en béton armés, des pavillons blancs, couleur pastel, des toits plats, quand autour, la campagne abrite plutôt des maisons paysannes en pierre. Donc ça fait un contraste. Et selon son fondateur, Albert Delsuc, Clairvivre était un laboratoire de la condition humaine. Et d'ailleurs, dès le départ, la cité est pensée comme une ville autonome, avec ses codes, ses infrastructures et ses activités. Tout est fait pour le bonheur des clairvivants, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Clairvivre. Et les malades peuvent bien sûr profiter du soleil et de l'air pur du Périgord, c'est le but. Mais c'est ce qui fait la spécificité de Clairvivre par rapport à d'autres sanatoriums de la même époque, c'est que les malades y sont accueillis avec leur famille. Clairvivre n'a pas toujours été acceptée par les habitants de la région et de fait la tuberculose est un véritable fléau à l'époque. La construction de la cité s'achève pourtant en deux ans, de 1931 à 1933, avec l'aide d'ouvriers venus de partout en France et de l'étranger. On écoute tout de suite un extrait avec Christian Boisson, Robert Talbot et Jacqueline Desthomas.
I've got the dust, pneumonia in my lungs.
C'est un projet qui a démarré ex nihilo. Donc pendant deux ans, un gigantesque chantier ici, jusqu'à 1000 ouvriers qui venaient d'un peu partout de France et d'Europe. Et ils ont tout défoncé, ils ont installé des rails avec des wagonnets pour déplacer toute la terre. Il a fallu tout créer.
Le terrain d'origine est en pente ?
Oui, il a été choisi à dessein pour une question d'orientation. Puisque les seuls traitements qu'on trouvait, qu'on a utilisés pour soigner la tuberculose à l'époque, c'était le soleil et une excellente alimentation, une alimentation beaucoup plus riche. La tuberculose ne s'est soignée avec des antibiotiques qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée des Américains.
Ça nous étonnait, quoi, voir une centrale électrique qui fournissait le courant à Salagnac, ici à la cité, mais aussi à la commune, de l'eau qui était fournie ici et à la commune, une station d'épuration, avec des normes, cette cité construite avec des normes qui n'existaient pas à l'époque nulle part. Et je pense que Albert Delsuc, Pierre Forestier et le docteur Haussmann avaient une conception écologique en construisant la cité, quand même.
Ce qui a surtout fait causer ici, c'est beaucoup son architecture. Elle est très éloignée de l'architecture traditionnelle que l'on avait l'habitude de voir en Périgord, l'usage du béton. Et puis, le fait qu'ils aient fait toucher aussi du doigt la culture à des gens qui en ignoraient absolument tout. Il y a eu ici un artiste comme Gaston Chessac. Gaston Chessac a été soigné à Clairvivre. Il n'y a pas de lieu analogue en France.
Voilà un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain, que vous avez signé, Sarah Masson, avec Anne Fleury, en ouverture donc de cette semaine consacrée à la santé publique. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui, outre Christian Papineau pour la revue en ligne Images du Travail, Travail des Images, Joël Coste pour Les Écrits de la Souffrance, la consultation médicale en France. Et puis, Joël Coste, vous avez participé à un ouvrage qui vient tout juste de sortir avec John Shade, Marilyn Nicou et Didier Boisseuil, entre autres, Le thermalisme, approche historique et archéologique d'un phénomène culturel et médical. C'est aux éditions du CNRS. Nous continuerons notre semaine sur la santé publique mercredi avec vous, Anaïs Quin.
Absolument, la médecine et la colonisation.
Exactement, santé publique et colonisation. Et jeudi avec Séverine Yatard autour de la maternité au 19e siècle. Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.